91 FM vous présente les talents d'aujourd'hui et de demain.
Tout de suite,
leur interview sur 91 FM.
Auditeur de 91 FM, nouvelle année, nouvelle autrice. On attaque ? On attaque avec qui aujourd'hui ? Bonjour Marie.
Bonjour Olivier. Ça va ? Bonne année, meilleurs vœux, la santé surtout.
Surtout la santé, parce qu'on va en parler pendant cette interview. Donc
oui.
Marie Souton, tu es autrice.
Oui, je suis autrice, infirmière dans un premier temps, on va dire. Profession de base, infirmière. Et effectivement, je suis venue à l'écriture de par mon métier.
Et alors justement, comment ça s'est passé ? C'est venu à l'écriture une notion de mémoire, si ma mémoire est bonne,
justement ? Oui, c'est ça. Au début, j'ai fait mes études d'infirmière, c'est une reconversion. Et en fin d'études, au bout des 3 ans d'études, on doit fournir un mémoire. Et donc, pour ce mémoire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et donc, ma directrice de mémoire, en le lisant, m'a dit « Marie, tu devrais écrire, t'as un truc ». Bon, c'est tombé un peu aux oubliettes. Et en fait, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que, effectivement, j'y suis venue. Premier événement, c'est la mort de mon petit lapin, Albator.
Le petit lapin Albator.
Voilà, voilà.
Alors, pour les initiés qui ont un certain âge comme le mien, Albator, en fait, c'est le nom d'un...
Le manga.
Du manga, ouais. En fait. Et voilà, presque anecdotique, parce que je sais aussi que tu donnes des noms un peu particuliers à tes animaux, parce que tu as aussi d'autres animaux,
oui,
tu as des chats.
Chat, hein,
voilà,
ouais.
Est-ce qu'on donne les noms des chats, par exemple ?
Alors, les chats, il y a Xena, Athéna, oui. Seiya, et le dernier, c'est Coco. Donc, pour les trois premiers, c'est un mélange de Chevalier du Zodiac et... qu'est-ce que j'ai dit ? Xena ? Ouais, bah, c'est Xena guerrière, quoi.
Tout à fait, on en reparlera.
Mais Athéna et Seiya, ils sont bien dans les Chevaliers du Zodiac.
Et on reparlera de Xena tout à l'heure. Mmh. Donc, en fait, tu as écrit ton premier livre, en fait, qui était Albator
ou la vie à tout prix.
Et alors, de quoi parle ? Quel est le sujet de ce livre ?
Alors, le sujet d'Albator ou la vie à tout prix, donc, ça tourne autour de la maltraitance animale. C'est un lapin qui appartenait à une amie et que j'ai sauvé de la maltraitance. Et du coup, il y a la question éthique qui s'est posée. Qui je choisis ? Le lapin ou mon ami ? J'ai fait mon choix, j'ai choisi l'ami. Le lapin, pardon.
Le lapin.
Lapsus.
Tu as vraiment perdu ton ami par rapport à ou tu as un petit peu détourné la vérité ?
Non, on se parle vraiment plus. Vraiment, vraiment plus. Le vétérinaire, il était de mèche. Il a fait passer. Enfin, il a menti. Il a dit qu'il n'avait pas reçu le lapin parce qu'elle faisait ses recherches pour retrouver son lapin. Et moi, j'ai menti aussi. J'ai dit qu'il était mort pour pouvoir le sauver de la maltraitance.
Alors, qu'est-ce que c'est que la maltraitance animale, en tout cas dans le cadre justement d'Albator, mais même qu'est-ce que tu dénonces et comment tu le dénonces ?
Alors, il y a deux sortes de maltraitance. Il y a la maltraitance volontaire, c'est-à-dire moi, si je saute le truc et que je te fous une tarte, voilà, c'est de la maltraitance directe volontaire. Voilà, c'est violent et tout, voilà. La maltraitance involontaire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément de mal à la personne, mais effectivement, en n'ayant pas les bonnes connaissances et le bon comportement du coup, quand on n'a pas les bonnes connaissances, on n'a pas le bon comportement, et ben en fait...
Comme la nourriture par exemple, typiquement, le problème d'Albator en fait, c'est justement les dents qui poussent.
Les dents qui poussent parce que la nourriture n'est pas adaptée, elle l'avait laissée dans la cage avec un abcès, elle allait partir. Bon, là il y avait quand même de la maltraitance volontaire. Mais la maltraitance involontaire, ça peut être parce qu'effectivement on ne connaît pas son animal comme il faut, on n'a pas fait les recherches qu'il faut en amont. Et par exemple, pour le lapin, 80% de sa nourriture, ça doit être du foin. Donc si on lui donne des friandises, il va les prendre, comme nous, quand on nous donne des Haribo et compagnie. On va développer du diabète, etc. Sauf que lui, le lapin, il va mourir parce qu'en fait, le foin, il agit comme un antibiotique au niveau du transit intestinal. Enfin, il maintient la flore bactérienne intestinale. Donc voilà. Bon, je rentre dans le vif du sujet, mais voilà. Donc il y a deux maltraitances, maltraitance volontaire et involontaire. Et là, il y a les deux dans le livre. Donc, je l'ai sauvé, ce lapin, parce qu'il y avait de la maltraitance volontaire, on va dire, quand même, parce qu'il était en souffrance quand je l'ai récupéré.
Et donc, le livre est principalement sur la maltraitance. Et il y a aussi une partie de fantasy, on est bien d'accord. Alors peut-être pas sur le premier, c'est une histoire, donc c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie que j'ai déclinée ensuite en histoire fantastique, fantasy.
Donc en fait, comment tu es passé de ce premier tome à une histoire vraie, tout simplement, à un deuxième et un troisième tome sur une volée un petit peu fantasy, enfin un petit peu... complètement fantasy.
Alors, j'ai sauté le pas, on va dire, entre guillemets, parce qu'en fait, moi, mon lapin, j'en avais pas terminé avec lui, même s'il y avait un deuil. J'en avais pas terminé avec lui. J'ai voulu continuer à le faire vivre, en fait.
Parce qu'il est décédé.
Il est décédé, ouais. Mais pas de... Comment dire ? Moi, il était très, très bien chez moi. Il est tombé du balcon. Malheureusement, bon, ça arrive. Voilà.
Ce n'est pas un chat.
Il s'est pris pour un chat, ouais. Il faut savoir que c'est des animaux qui sont... alors, je ne sais pas si ça s'appelle du mimétisme, mais le fait de... Comment dire ? De se comporter comme l'animal qu'il a en face de lui. C'est un comportement de proie aussi, parce que dans la nature, c'est des proies. En fait, ça leur permet de, comment dire, de vivre en bonne entente avec les chats et autres animaux. Donc, oui, je suis passée au fantastique parce que je voulais continuer à le faire vivre. Et je voulais pas le lâcher, quoi.
Complètement. Et alors, quelles sont ces aventures, justement, dans les tomes 2 et 3 ? L'aspect fantastique, quelle est la relation
Alors, dans le tome 2 et 3, alors, c'est vrai que normalement, on devrait dire tome 0 et 1, 2 pour le fantastique. Donc, en fait, dans le tome 1 et 2, donc fantastique, les aventures d'Albator, lui, d'abord, il découvre la vie. Je raconte quand même... au départ que je l'ai sauvé de la maltraitance, mais c'est lui qui parle. Dans le tome 0, c'est moi qui parle, donc lui c'est vraiment un animal. Et dans le tome 1 et 2, donc fantasy, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle et en fait, comment dire, il donne son avis sur le monde qui l'entoure, il découvre la vie en arrivant chez moi. Et donc les chats vont l'éduquer, lui donner un point de vue sur le monde que lui n'a pas forcément parce qu'il a vécu toujours dans une cage, pas en liberté du tout. Et en fait, donc ça c'est pour montrer aussi qu'un animal, il peut développer une intelligence quand effectivement on lui donne de l'affection, la liberté, la nourriture adaptée et quelque part un certain libre arbitre aussi dans sa manière de vivre, hein. Donc, ses aventures, il va les vivre avec les quatre chats qu'il y a à la maison. Et puis,
Xena. Parce qu'il est amoureux de Xena.
Alors, lui, il développe vraiment une... On va dire, dans un premier temps, c'est vraiment une admiration qu'il a pour Xena. Et puis, c'est un peu son inaccessible. Hein. C'est waouh. Et puis, elle est un peu fière. Hein. C'est le chat princesse. Et... elle l'aime bien quand même, mais elle lui montre pas. Elle fait sa fière, quoi, en fait. Et puis, lui, voilà, il a une certaine fascination pour elle. Et puis, c'est surtout qu'elle représente quelque part le savoir, la confiance en soi. Voilà. Donc, lui, ça lui fait envie, tout ça, parce qu'effectivement, il n'a pas eu tout ça. C'est un lapin dans l'histoire qui est un peu en retrait, quand il va avoir des responsabilités.
En retrait, mais justement, son rôle d'ambassadeur, en fait. Donc l'ambassadeur des tuteurs, tu peux nous en parler par rapport à cette notion ? Parce que c'est aussi une partie du livre et de l'histoire, c'est justement qu'il prend des responsabilités parce qu'un certain monsieur, Dieu, lui en donne.
Alors il y a une part de mystique qui arrive effectivement à un moment donné de l'histoire. J'essaie de pas trop spoiler. Hein. Il y a une part de mystique qui arrive à un moment donné de l'histoire qui fait qu'effectivement on va lui donner des responsabilités que nous en tant qu'humains on se dirait franchement le roi de la nature c'est le lion quoi. C'est pas un lapin. Et là, en fait, on inverse la tendance en disant c'est le lapin et puis sa responsabilité, ça va être par rapport à la cause animale. Donc lui, il se sent complètement débordé, paniqué. Et en fait, il va devoir gérer ça.
Et donc, il y a un quatrième opus, en fait, qui s'appelle 3 ans et plus 6 affinités. Et là, on part sur un tout autre sujet, tout en sachant qu'évidemment, à l'intérieur du livre, on reparle d'Albator. Et on reparle aussi des chats et de ta famille. Mais là, le sujet, c'est finalement la maltraitance un peu humaine que tu vois via ton métier d'infirmière.
Voilà. En fait, j'ai écrit le tome 0 d'Albator dans un premier temps. Le deuxième temps, ça a été 3 ans et plus si affinité, donc sur la vie d'infirmière. Et en fait, comment dire, Albator, lui, il vient se placer là-dedans parce que c'est la question, mon mémoire que j'ai écrit hein, dans le cadre de mes études infirmières, la question c'était l'intérêt du soin relationnel dans la prise en charge infirmière. L'intérêt, c'est qu'on gagne du temps, le patient il n'est pas stressé, et nous on n'est pas stressé non plus. Donc il y a beaucoup de soignants qui considèrent que le soin relationnel, c'est surfait quoi, ça, on perd du temps. Mais non, en fait ça a vraiment un gain de temps au niveau des soins, et c'est une très bonne chose pour le patient et aussi pour le soignant. Donc ce mémoire, je l'ai fait là-dessus. Et la question de recherche, c'était comment mettre en place une relation symétrique avec un...
Donc il y a personne... égal à égal.
Voilà, une relation symétrique, c'est quand il n'y a pas de pouvoir hein, qui s'exerce. Hein, voilà. Contrairement à asymétrique, effectivement, quand par exemple, il y a un soignant qui va exercer son pouvoir sur un patient. Donc en fait, c'était comment mettre une relation symétrique dans une relation entre un soignant et un patient polyhandicapé. C'était ça la question de recherche. Et en fait, ça dégage, enfin ça aboutit sur la vulnérabilité du patient. Et donc c'est pour ça que Albator, lui, il est arrivé parce que lui, il représente la vulnérabilité. Il parle pas notre langue. Il faut qu'on ait des connaissances pour pouvoir s'en occuper. Et comment dire, c'est un peu la même chose qu'un patient vulnérable.
Voilà, et la notion de polyhandicap, c'est pas la notion complètement physique ou même, je veux dire, c'est tout simplement de ne pas avoir certaines...
On n'a pas les mêmes codes.
Voilà.
On n'a pas les mêmes codes.
C'est-à-dire que le fait tout simplement de ne pas comprendre le vocabulaire utilisé par une infirmière fait qu'on a une forme d'handicap, c'est ça que je veux dire.
En fait, un patient polyhandicapé, lui, comment dire, moi, quand j'ai bossé en établissement médico-éducatif, comment dire, un patient polyhandicapé, il ne marche pas, il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas se mouvoir tout seul, il est vraiment dans une grande vulnérabilité. Il ne peut pas s'exprimer, ce n'est pas vrai. Il y a des regards, il y a des codes qui sont différents par rapport à nous. Et en fait, effectivement, il faut développer une certaine connaissance par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'on peut s'occuper de ce type de patient. Hein.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que ce livre est un livre témoignage ?
Ah, c'est tout à fait un témoignage. Ça se développe comme un genre de journal intime, puisque je raconte tous les jours un petit peu comment dire, ce qui se passe dans ma vie d'infirmière. Et comment dire, je pars de la fin de mes études, où je n'ai pas eu le diplôme du premier coup, parce que moi je suis tétanisée par les...
Par l'acte en tant que tel,
l'acte soignant me tétanisait à l'époque. J'avais horreur d'être regardée par les profs. Et en fait, à partir de ce moment-là, je loupais tous mes TP. Donc, je n'ai pas eu le TP à la fin. C'était un TP de chambre implantable. Je ne l'ai pas eu à la fin. Donc, il a fallu que je repasse un stage et que je repasse ce TP. Mais il fallait repasser un stage. Et en fait, tous mes stages se sont à peu près bien passés. Donc, voilà, il y a eu des stages très durs hein, où, effectivement, il y avait de la maltraitance que j'ai dénoncée. Donc ça, on peut le lire dans Albator ou la vie à tout prix. Je parle de maltraitance en crèche. Je ne sais plus où j'en étais.
Mais en fait, la première partie, en fait, c'est... Donc, il y a la première partie où tu as toutes les premières expériences.
Oui, tant qu'étudiante.
En tant qu'étudiante.
Ouais, hein. Ouais.
Mais aussi, donc tu as aussi les premières fois, en fait, ou dans tes premiers postes, où on voit, en fait, qu'on découvre en fait tout cet univers de pression, que ce soit une pression hiérarchique, et on se rend compte de la maltraitance. Alors il y a deux types de maltraitance finalement. Tu as la maltraitance potentiellement entre les collègues,
maltraitance entre soignants,
voilà, et qui est la plus criante hein, en tout cas dans la première partie,
dans ce que j'ai ressenti
que tu as subi en fait, et qui fait que tu t'es demandé même si c'était vraiment le boulot pour lequel tu t'es faite.
Je me suis posé la question plusieurs fois, effectivement, si j'étais faite pour ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, non, comment dire, c'est le retour que j'ai par rapport à certaines personnes. Et c'est pas possible qu'effectivement, je me laisse influencer par ça. Donc, effectivement, je me suis retrouvée à faire 50 000 postes pour pouvoir trouver le service idéal pour moi.
Parce qu'au
début,
est bien...
je me disais, c'est pas possible, je trouverai pas. Et j'ai fini par trouver.
Et donc, ça veut dire que, comme dans beaucoup d'entreprises, mais encore plus dans ce genre de position qui est la le poste d'infirmière, c'est le plus important, c'est effectivement de pouvoir, si on veut bien faire son travail, c'est d'être dans une équipe où on se sent bien.
Ah oui, alors pour quand on est infirmière, à l'hôpital ou en notre établissement, on va dire, hein, ce qui est primordial, c'est la collaboration.
Que ce soit hiérarchique, hein, mais hiérarchique, c'est toujours pareil, il y a un chef, etc.
Voilà, mais vraiment avec les collègues, je parle
avec le binôme,
des aides-soignantes, voilà. Parce qu'effectivement, infirmier, binôme infirmier-soignant.
Et médecin, bien entendu.
Médecin, tout ça, voilà, les kinés, tout ça. Enfin, bref, on est vraiment une équipe pluridisciplinaire, on appelle ça comme ça. Et en fait, effectivement, si on ne s'entend pas, déjà, voilà, il y a une souffrance au niveau du soignant. Et puis ensuite, si on ne s'entend pas, le patient aussi, il empathie, parce que la prise en charge, elle n'est pas optimale.
Alors justement, par rapport à cette prise en charge des patients, tu as eu affaire aussi à des services, côté des services gériatrie, par exemple, pas simple. Ouais. Aussi, tu as côtoyé aussi des décès qui étaient un peu ton...
Alors ça, c'était pendant la crise sanitaire, effectivement. Dans le livre, je raconte comment ça s'est passé. Ouais. Le décès à l'hôpital, c'est vrai que... il faut avoir de la distance professionnelle, c'est-à-dire que nous, en tant que soignants, on peut ressentir des choses, mais effectivement, il faut d'abord être soignant. Mais dans le cas de la crise sanitaire, moi, j'ai senti que les barrières elles commençaient à tomber, hein, parce qu'il y a eu des histoires qui m'ont vraiment touchée. Moi, je me souviendrai toujours d'un petit jeune qui a fêté son anniversaire à l'hôpital. Dans la force de l'âge, hein, vraiment, il avait 24 ans. Et moi, je l'ai vu debout, grand gaillard, il ressemblait à un basketteur, super grand, musclé et tout. Donc, voilà, hein, assez vaillant, on va dire. Et en fait, avec le Covid, il a eu une défaillance au niveau des reins. Et il s'est retrouvé à avoir, jusqu'à la fin de ses jours, des dialyses. C'est arrivé du jour au lendemain, c'est le Covid qui a vraiment flingué tout. Il devait y avoir un petit souci qui aurait dû se déclarer vraiment plus tard. Mais avec le Covid, ça a été accéléré. Et c'est vraiment l'épisode choquant que je garde de cette crise sanitaire. Ça m'a...
Et donc, alors, il y a évidemment ta vie d'infirmière à l'hôpital. Donc, les plusieurs postes, le fait d'avoir toute cette pression, comme on vient de le mentionner. Mais il y a aussi, et c'est aussi un des volets aussi pour moi très important, que je l'ai ressenti évidemment comme tel, c'est un ressenti, la vie familiale.
Ouais.
Où là, donc déjà, même que ce soit la période Covid ou pas Covid, cette notion de transport, où tu nous évoques aussi les épisodes avec les taxis, etc. Simplement les transports, une époque où c'était compliqué parce que tout simplement il y avait moins de monde et c'était beaucoup plus dangereux. Donc il y a aussi le quotidien, puisque c'est aussi des amplitudes horaires extrêmement importantes, et le fait de rentrer à la maison. Et là, un truc tout bête. Netflix revient, je ne vais pas faire de pub, mais revient assez souvent dans l'histoire.
Ouais, parce que c'est l'échappatoire, c'est vraiment c'est l'exutoire.
Exactement,
c'est...
il y a deux choses, il y a ça et les douches chaudes.
Ouais.
Et donc,
c'est le réconfort.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, la première des choses, c'est que tu rentres chez toi, en fait, alors quand je dis toi, mais ça peut être le quotidien de toute infirmière,
c'est une
généralité.
Elles se reconnaîtront, Elles
se reconnaîtront évidemment, c'est j'arrive, je me mets à ma douche, elle est chaude, pas de bain, la douche. C'est meilleur.
Non, moi, je prends pas de bain.
Et donc, c'est vraiment un passage important. Ça, il n'y a pas du tout de nourriture. Par contre, la notion de réconfort, elle passe par la notion de douche, je l'ai senti, par l'évasion par rapport à Netflix, mais ça pourrait être un autre type. Et donc aussi, il y a ta fille, en fait, dans l'histoire, qui est là, qui est au cœur d'eux. Mais c'est vrai qu'on sent que la cellule familiale, en tout cas, donne l'impression que pour les infirmières, ça mange tout.
En fait, quand on lit l'histoire, effectivement, on se rend compte que la part d'histoire familiale, elle est vraiment minime dans le livre. Effectivement, quand je raconte cette petite part-là, elle est forte aussi. Parce qu'on se rend compte que y a une fille, il y a un foyer, et où on n'est pas là tout le temps. Et même quand on est là, on n'est pas là.
Oui, parce que tu arrives, t'es crevé.
On est crevé, on est crevé. Et il y a un enfant qui est là, qui est en attente. Et en plus, des fois, on arrive, on n'est pas spécialement à l'écoute de son enfant. Et il y a un manque qui se crée. Moi, je vois ma fille, ça a été une catastrophe, cette crise sanitaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de soignants. Moi, j'ai discuté avec d'autres soignants.
Mais je n'ai pas ressenti... Alors, j'ai ressenti évidemment que sur la crise sanitaire. Et encore, en lisant le livre... J'ai senti que, vu que la crise sanitaire était là, même si c'était plus lourd, c'était hyper cadré. C'était un cadre encore beaucoup plus cadré. Vous étiez un tout petit peu aidé. C'est ma perception. Hein. C'est bien une perception.
Ouais, mais je ne vois pas sur quoi le cadre.
Et bien, en fait, ça donnait l'impression dans le livre, quand je l'ai lu, que c'était beaucoup plus cadré. Et vu qu'avant, tu changeais de poste plus, et que la pression était... Eh bien, en fait, je n'ai pas ressenti, même dans cette période de Covid... une forme de pression. J'ai senti les gens, ils étaient abattus, ils étaient fatigués, mais ils n'étaient pas dans le conflit.
Non, il y avait vraiment...
Ils n'étaient plus dans le conflit.
On était soudés.
Voilà, vous étiez soudés.
C'était la guerre.
C'était la guerre, mais une guerre soudée. Alors qu'avant, c'était pas soudé.
Non.
Et donc, ce qui fait que j'ai ressenti ça comme étant encore plus dramatique, puisque vraiment tu étais dans se poser la question vraiment si tu étais à ta place, alors que dans la deuxième partie, même si c'était très très dur,
ouais,
le Covid,
c'est très dur, mais là on est à sa place.
Et là tu étais complètement à ta place, parce qu'il y avait une notion aussi de guerre, et etc. Et donc
il y avait vraiment cette entente entre soignants, par contre. Quand les temps sont vraiment durs, et tout, enfin, dans la crise sanitaire, moi je l'ai senti, vraiment on serrait les coudes, mais parce que là c'était on a vraiment travaillé au départ avec rien. On avait du plastique qu'on se mettait sur soi pour se protéger, et il a fallu faire venir des moyens par la suite.
Je crois que vous mangiez bien, il y avait des fleurs, il y avait des chocolats, et maintenant c'est fini ça.
Ah non, c'est fini ça.
Et alors justement, la perception, par exemple, le soir, que les gens applaudissaient, quelle est votre perception à vous en tant qu'infirmière ?
Alors, moi, j'étais, ça me faisait plaisir, j'étais assez fière, tout, mais je me rappelle d'une collègue qui a dit « Oh, on nous applaudit là parce que c'est dur et tout, mais on nous aura oublié dans quelques temps. » Et effectivement...
C'est le cas.
Quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de...
Alors justement, donc, on va dire qu'il y a eu un tome 1 à ce 3 ans et plus si affinité.
Il y a
donc,
le tome 2 qui va arriver.
Alors le si affinité, avec 3 petits points, donc évidemment...
Ouais, les 3 petits points, c'est ma marque de Fabrice. Fabrique, pardon, il y en a partout.
Et donc alors, le tome 2 est en cours d'élaboration.
Le tome 2 est en cours. Donc le tome 2, il sera... je fais un comeback sur les stages, où il y a effectivement beaucoup de maltraitance. Et donc je le mêlerai à ma vie actuelle, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps aussi. Et j'ai rencontré quelqu'un en allant à la médecine du travail, en pleurs, qui a vécu des choses très, 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 très dures, mais très longtemps. Parce que moi, c'était assez court, je refusais d'endurer. Mais elle a enduré très, très, très longtemps. Et en fait, j'ai réussi à récupérer son témoignage. Et c'est très très fort. Moi, waouh, j'ai de l'admiration pour cette femme-là. D'ailleurs, si elle écoute l'émission, Mareva, je te fais un petit coucou. Et d'une force, mais aujourd'hui, elle en est complètement cassée. Elle est suivie par des psychologues, psychologues, psychiatres et un autre psychologue spécialiste des traumatismes. C'est fou de se dire qu'un environnement qui est censé être bienveillant vous détruit comme ça.
Mais est-ce que vous êtes préparé lors de votre formation à ça ? Genre vous êtes préparé à la partie technique ? J'en doute pas.
Alors, quand on va en stage, effectivement, on se rend compte que c'est un monde presque cruel par moment.
Et même le stage est une chose, mais il y a une partie théorique
On n'a pas de théorie là-dessus.
Mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'à l'école, quand vous êtes
non,
à un moment sur
la maltraitance des soignants, on n'a pas du tout. On n'est pas du tout préparé à ça.
Pas du tout préparé.
Du tout, du tout. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai proposé mon livre à mes professeurs. D'institut de formation en soins infirmiers. Et il y en a qui l'ont proposé à leurs élèves parce qu'effectivement, ils disaient que c'était la vraie vie.
Exactement.
C'est ce qui se passait vraiment. Et qu'en fait, comme c'était une profession où c'était en crise, puisque gens, ils vont à reculons maintenant. Les élèves, je pense que quand ils passent 2-3 stages, ils se rendent compte de commencer. Il y en a qui ne retournent pas. Et donc, moi, j'ai des professeurs qui m'ont dit « Non, je peux pas faire lire ça à mes élèves parce que sinon, j'ai plus de boulot derrière. »
Ouais, c'est ça qui est dramatique.
Ouais. Et j'en ai qui m'ont dit non, c'est bien de dire les choses parce qu'il faut que les gens soient préparés à ça.
Oui.
Mais eux, ça rentre pas dans, c'est pas dans le programme.
Mais c'est ça. C'est ça. Une des conclusions, c'est qu'effectivement, une partie de du programme devrait être justement, ça pourrait être mieux connaître, c'est de mieux appréhender et aussi surtout d'être mieux armé parce que c'est ça. Et après, ça dépend aussi des caractères des gens. Tu es armé d'une certaine manière, d'autres le sont moins. Et effectivement. C'est quelque chose qui peut aussi s'acquérir.
Ça prépare.
Ça se prépare.
Ça se prépare. Et puis, un homme averti en vaut deux, on va dire. Et puis, en fait, quand j'ai écrit ce bouquin, il y a deux mondes infirmiers, on va dire. Il y a ceux qui, effectivement, pensent que c'est totalement vrai. Ils sont d'accord avec ça. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas d'accord et qui se disent, mais pourquoi écrire un... Je l'ai eu, Pourquoi écrire un livre comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je dis, si je l'ai vécu, c'est que c'est vrai quand même. Ouais, mais non, ça sert à rien d'écrire des livres sur ça. Et ces personnes-là, c'était des personnes qui étaient infirmières libérales. Donc en fait, quelque part, elles se contredisaient parce qu'elles avaient quitté la sphère hospitalière pour aller en libéral. C'était bien pour quelque chose.
Et voilà, et là, c'est vraiment sur effectivement le rôle d'infirmier ou d'infirmière dans le cadre hospitalier. Donc effectivement.
Là, c'est dans le cadre hospitalier. J'ai fait clinique, hôpital, établissement médico-éducatif. J'ai fait un petit peu de tout.
Eh bien, merci Marie.
Eh bien, de rien, Olivier.
Eh bien, écoute, tu reviendras pour justement ce deuxième tome.
Pas de souci, avec plaisir.
Donc, Marie Souton, avec donc, le livre dont on vient de parler, 3 ans et plus affinité sur la maltraitance en milieu hospitalier, infirmier, infirmière. Et les 3 livres... Donc, le tome 0, Albator ou la vie à tout prix, qui parle de la maltraitance animale.
Ouais, c'est lié un peu à la vie d'infirmière. Enfin, il y a des concepts de vie à la fin du bouquin. Donc, la congruence, la bienveillance, bientraitance, l'empathie.
L'humanitude.
Donc, y a l'humanitude aussi. Parce que vous aimez bien ce mot-là.
C'est mon truc. Et donc, le tome 1 et tome 2
de la partie. Oui, il y a le rappel des concepts aussi.
Voilà, et donc le tome 1 et tome 2 sur la partie donc plus Albator ou l'Odyssée et Albator ou la Destinée sur un mode plus fantasy. Où là, c'est l'histoire, la suite d'Albator suite à ce qui s'est passé dans le tome 0.
Il faut dire aussi, dans 3 ans et plus, c'est affinité, il y a le mémoire à la fin. Ça peut intéresser les étudiants parce que je sais que c'est la période des mémoires, ils travaillent sur le mémoire en ce moment. Et donc, il est axé sur le soin relationnel. Donc, si ça les intéresse, voilà.
Donc, on va remettre de toute façon toutes les informations sur notre site internet. Eh bien, merci Marie.
Eh bien, de rien, Olivier. Merci à vous de m'avoir reçu dans les studios. En plus, je suis arrivée en retard, je le dis. Ils ont été super sympas, bienveillants et bien traitants. C'est bien.
Voilà, donc on était avec Marie Souton. Et donc, on vous souhaite à tous, 8h91 FM.
Un bisou à mes parents.
Aussi, et aux auditeurs de 411 FM. Oui.
Et aux auditeurs, je leur souhaite une bonne année, meilleurs vœux, la santé et une bonne lecture, oui.
Merci Marie.
Au revoir.